100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean-Sara Méa, historien, raconte les années anniversaires de 2026.
Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons, si vous le voulez bien, notre promenade dans l'histoire du siècle écoulé. Et selon la formule sympathique et habituelle, je souhaite un bon anniversaire à toutes celles et ceux qui ont ou vont avoir 90 ans en 2026. Alors, il y a 90 ans, c'est cette année 1936 qui a laissé beaucoup d'événements en mémoire. Dans le monde, c'est la fin de la dernière guerre coloniale d'un pays européen. C'est l'armée italienne qui a eu beaucoup de mal depuis le mois d'octobre, mais qui termine la conquête de l'Éthiopie. Ce qui fait que le roi Victor Emmanuel III devient empereur et le maréchal qui a emporté la victoire sur le terrain, Badoglio, devient vice-roi. Autrement, c'est la réélection du président Roosevelt aux États-Unis. Rappelons que c'est le seul président de l'histoire des États-Unis qui sera élu 4 fois de suite, ce qui n'est plus possible de nos jours. En Europe, c'est au printemps l'élection du Frente Popular en Espagne. L'expérience politique va très vite mal tourner avec un soulèvement militaire qui va noyer dans le sang par des répressions terribles toute une partie de l'Espagne. Et à partir de mi-juillet, ce sera le début de cette terrible guerre civile espagnole qui va durer jusqu'en 1939 et qui verra la victoire et le pouvoir de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España. C'est le début des grands procès de Moscou pendant lesquels Staline va se débarrasser de beaucoup de chefs politiques, de chefs militaires. Ça va décapiter toute son administration et toute l'armée rouge. Bon, au niveau historique, on pense que Staline voulait, pour asseoir son pouvoir personnel, mettre en place une nouvelle génération dans différents domaines qui ne devrait son pouvoir qu'à lui-même. C'est aussi le réarmement de l'Allemagne. Hitler, qui est au pouvoir depuis 3 ans, proclame le réarmement et au mois de mars, en violation du traité de Versailles, fait occuper la Rhénanie, qui était normalement démilitarisée, et observe que ni le Royaume-Uni ni la France ne réagissent militairement, ce qui va en quelque sorte l'encourager. Et Mussolini, qui vient donc de gagner la guerre d'Éthiopie, se dit que, au fond, les démocraties ne sont pas très réactives face aux menaces et qu'il faudrait peut-être s'allier entre Berlin et Rome, ce qui sera assez vite le cas. En France, c'est sous la présidence d'Albert Lebrun, la démission de ce que l'on n'appelle pas encore le Premier ministre, mais le président du Conseil, Laval, qui avait tout à fait conscience de la menace nazie, mais qui tombe au niveau ministériel, entre autres sur les difficultés à gérer la violence, en particulier à Paris, violence qui vient pour l'essentiel des ligues d'extrême droite. Et le 3 mai, c'est l'élection à la Chambre des députés du Front populaire français. Léon Blum devient Premier ministre avec le soutien, mais sans la participation des communistes et surtout du puissant parti radical. Une vague de grève soutient en quelque sorte sa politique. Alors, la semaine de 40 heures, les 15 jours de congés payés, l'augmentation de salaire, le passage du certificat d'études de 13 ans à 14 ans, les conventions collectives. Bon, avant des difficultés politiques et surtout économiques à partir de la fin de l'été et de l'automne, avec une dévaluation du franc trop tardive pour relancer l'économie française de 30% à l'automne, alors que toutes les grandes monnaies, la livre sterling, le dollar, avaient dévalué bien avant, ce qui boostait leurs exportations, évidemment, et ce qui gênait fortement l'économie française. Dans le domaine sportif, eh bien, ce sont les Jeux olympiques d'hiver à Garmisch-Partenkirchen et les célèbres et controversés Jeux olympiques d'été à Berlin, ce qui va être à la gloire de la propagande nazie. Le Tour de France est remporté par Sylvain Maes, un Belge, Maes. Au niveau culturel, c'est un film toujours très connu, Les temps modernes, Charlie Chaplin. Bernanos écrit Le journal d'un curé de campagne. Margaret Mitchell, aux États-Unis, publie Autant en emporte le vent. Le film, ce sera 1940. Jean Anouilh, en France, Le voyageur sans bagage. En France, c'est le très beau film qu'on ne revoit plus de Jean Renoir, La Marseillaise, sur l'histoire de la création de notre hymne national. Roger Martin-Dugard écrit L'été 14. André Gide écrit très courageusement Retour d'Union soviétique, où on s'aperçoit qu'il a vu beaucoup de choses que beaucoup se refusaient à voir pendant son séjour en Union soviétique, et il dénonce très bien ce qu'il a vu. Autrement, en musique, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli se font largement connaître. Naissance de personnalité future, bien sûr. Jean Édernallier, le champion automobile Jim Clark, britannique. Notre célèbre cycliste Raymond Poulidor, l'acteur Claude Brasseur, le couturier Yves Saint-Laurent et le cinéaste Philippe Labro. Les disparitions, l'immense écrivain Rudyard Kipling, et alors quelque chose de très original, à la mort du roi d'Angleterre George V, qui régnait depuis longtemps, il va y avoir deux rois successifs, ce qui fera trois rois anglais en une seule année. Édouard VIII, qui ne sera pas sacré roi, abdiquera pour épouser Miss Simpson et venir vivre en grande partie en France. Et ce sera George VI, le grand-père du roi actuel, Charles III, qui arrive au pouvoir. Donc, les collectionneurs de timbres, voire de pièces de monnaie, savent qu'en 1936, ben, il y a trois rois successifs comme effigie. C'est la mort de l'écrivain russe Maxime Gorki, de l'aviateur français Louis Blériot, de l'aviateur français Mermoz, de l'explorateur français le commandant Charcot, surtout vers les zones polaires, du grand écrivain italien Luigi Pirandello. Alors, les chansons de cette année-là. Et il y en a beaucoup. On rit pas mal en écoutant de Georgius au lycée Papillon. Daniel Darieux chante, elle est jeune, très jeune à l'époque, c'est un mauvais garçon. Jean Gabin, quand on se promène au bord de l'eau. Mais également Mon Légionnaire, qui est très diffusé à l'époque. Maurice Chevalier chante Ma pomme. Il s'étabait, on a bien oublié, mais ça faisait bien rire. Il y a toujours un passage à niveau qui barre la route, ça vous dégoûte. Et tout le monde pensait au Tour de France qui, évidemment, devait s'arrêter devant les passages à niveau qui étaient abaissés, ce qui bouleversait quelquefois le classement. Reventura, oh, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Tino Rossi, ben, Marinella, tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Et Chichi. Bon, j'ai choisi La chanson qui va faire vraiment connaître Jean Sablon, Vous qui passez sans me voir, une très belle chanson qui va faire connaître sur les ondes Jean Sablon. Je terminerai en rappelant que la sœur de Jean Sablon, Germaine Sablon, a été une très grande résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt.
Sont là pour m'étouffer de larmes de fleurs, de baisers. Oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Passer sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir. Un mot, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, me donnerez-vous ce soir un peu d'espoir? Sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu, bonsoir.